Busan. L'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, vous écoutez Pulsan sur Alternantes, une émission réalisée et animée par la Société d'Astronomie de Nantes. Comme tous les lundis des semaines paires, nous sommes en direct pour vous parler de la reine des sciences, l'astronomie. Ce soir, Christian Scotta nous parlera de Nicolas Copernic, ensuite vous retrouverez la chronique astropratique où Olivier Fortino vous expliquera ce que sont les mesures angulaires du ciel. Nous parlerons aussi de spectroscopie avec Daniel Horling. Dans la chronique intitulée « Un peu d'histoire », Fabrice Dubreuil nous parlera de Galilée. Pour finir, Véronique Dubois nous présentera la fête de la science où la SAN réalise une magnifique exposition. Ce soir, vous avez remarqué que l'on va parler de Copernic et de Galilée. Christian Scotta va maintenant vous parler de Copernic, car comme le disaient des proches, gloire à Galilée qu'on torture pendant que Copernic. À toi Christian.
Alors Nicolas Copernic est un Polonais, il est né en 1473. C'est un homme de la Renaissance. En 1500, il aurait fait un exposé de mathématiques devant des étudiants à Rome. On pense qu'il a parlé d'astronomie. En 1512, son oncle, qui l'a éduqué, lui obtient un poste de chanoine qu'il occupera toute sa vie. Alors un chanoine, c'est un religieux, mais qui n'officie pas dans l'église. On peut voir dans la cathédrale de Strasbourg une copie d'un des portraits de Copernic. Il était peintre à ses heures de loisir et il s'est représenté en tenant dans la main un brin de muguet parce que c'est le symbole des guérisseurs.
Oh là là, donc c'est un autoportrait là.
C'est un autoportrait. Et on voit un autre portrait de Copernic à l'Observatoire de Paris. Quand la SAN y a été avec moi-même la semaine dernière, j'ai pu voir ce tableau avec le même brin de muguet. Alors, Copernic a inventé ce que l'on appelle la thèse héliocentrique, c'est-à-dire l'idée que l'on place le Soleil au centre du monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est plutôt la thèse géocentrique qui dominait l'astronomie, c'est-à-dire que l'on plaçait la Terre au centre du monde. Cette idée est très ancienne, mais c'est Ptolémée, un astronome grec du 1er siècle de notre ère, qui vivait en Égypte, qui l'a rédigé dans un livre que l'on a appelé l'Almageste. Et c'est cette thèse qui a dominé toute l'époque médiévale jusqu'à Copernic.
Il faut même ajouter que c'est pas vraiment Ptolémée qui l'a... Bon, il l'a pas non plus nié, mais elle traînait. Enfin, c'était l'hypothèse qui dominait dans tous les esprits. Donc Ptolémée n'a fait que transcrire ses idées dominantes dans l'Almageste, en fait. Et il en a rajouté, bien sûr, ses mesures.
Exactement. En fait, c'est Aristote et Platon, deux philosophes qui n'étaient pas astronomes, qui ont porté le géocentrisme dans leur philosophie, parce que la Terre devait être au centre du monde, l'homme devait être au centre du monde, il devait être le but de la création. Et donc Ptolémée a repris cette thèse, mais en l'illustrant avec des observations astronomiques très précises et en utilisant celles de ses prédécesseurs. Donc dans les années 1500, on peut penser que Copernic avait déjà l'idée de l'héliocentrisme dans la tête, mais il l'a diffusé dans un petit manuscrit qu'il n'a pas publié, qu'il a intitulé le Commentariolus, c'est-à-dire le petit commentaire, un petit livre d'une dizaine de pages dans lequel il expose ce système, mais sans démonstration. Ce petit manuscrit a circulé, il a été recopié par des astronomes et des mathématiciens de l'époque, ce qui fait que Copernic, vers les années 1540, était déjà connu pour l'héliocentrisme alors qu'il n'avait rien publié. En 1540, il reçoit la visite d'un jeune qui s'appelait Rheticus. Il avait 25 ans et Copernic avait 66 ans. Et Rheticus va amener Copernic à publier sa thèse, à formaliser le manuscrit du De Revolutionibus, le livre qu'il publiera. Donc, c'est la dérévolution des orbes célestes. C'est les livres que Copernic publiera en 1543, mais sur lequel il travaillait depuis les années 1535 sans se décider à le publier. Alors, je vais faire une description du système de Copernic. Alors, grosso modo, c'est notre système solaire. Hein. Donc, les planètes tournent autour du Soleil. La Terre, elle tourne avec les planètes autour du Soleil. Alors évidemment, les planètes Uranus, Neptune et Pluton étaient inconnues à l'époque. Notez que le système solaire de Copernic est 20 fois plus petit que le nôtre, parce qu'on sous-estimait les distances entre les planètes et le Soleil. Copernic représente les orbites des planètes par des cercles qui sont concentriques au Soleil. Le cercle avait une notion de perfection qui remontait à Platon et Aristote. Et Copernic n'a pas remis cette notion de cercle en cause, même si on savait à l'époque que les planètes ne décrivaient pas des mouvements réguliers, elles avaient un mouvement irrégulier en fonction de leur distance au Soleil ou à la Terre selon le système où on se plaçait. C'est Kepler en 1609 qui découvrira que les planètes décrivent des ellipses. J'ai parlé de cercles, mais Copernic semble avoir cru à la matérialité des sphères célestes. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage, « Des révolutions des orbes célestes », à l'époque, hein, depuis Ptolémée, depuis l'Antiquité, on pensait que les planètes étaient portées par des sphères solides, donc ces sphères tournaient autour de la Terre, et Copernic va les faire tourner autour du Soleil. Est-ce que ces sphères étaient réellement matérielles dans sa pensée, ou s'agissait-il d'un modèle géométrique? On ne trouve pas dans les écrits de Copernic quelque chose qui puisse trancher la question.
Donc lui, en fait, il ne faisait pas tourner ça autour de cercles, dans les sphères. C'est-à-dire voilà. Que c'est la sphère qui tournait avec la planète posée dessus. Quoi.
Voilà, c'est ça.
On peut même ajouter, en fait, Copernic est un peu victime, comme beaucoup de ses prédécesseurs, de cette croyance que la sphère, enfin le cercle ou la sphère, étaient des figures géométriques parfaites, et que les choses du ciel étant parfaites et éternelles ne pouvaient décrire autre chose que ces figures parfaites. Donc même s'il a imaginé finalement un monde ordonné autour du Soleil et non plus autour de là, même s'il transgresse un peu le conformisme intellectuel de l'époque, malgré tout, il s'en réfère encore à la géométrie et Descartes fera la même erreur d'ailleurs.
Oui, dans son manuscrit d'ailleurs, il parle des planètes comme des corps divins et dans le livre publié, il parlera de corps célestes. Comme Ptolémée, les planètes ne sont pas des corps ordinaires, hein, elles ont un aspect divin. Il y a toujours une métaphysique qui est sous-jacente, aux thèses de Copernic. La sphère des fixes est-elle solide? On savait que, vous savez, en observant le ciel, il ressemble, les étoiles semblent être disposées sur une sphère centrée sur la Terre. Donc, pour Copernic, les étoiles sont fixées sur cette sphère qu'il centre sur le Soleil. Mais on ne sait pas là non plus si cette sphère est solide ou si c'est simplement un effet de perspective. En tout cas, le monde n'est pas homogène comme il le sera plus tard. Les étoiles ne sont pas dispersées dans l'espace infini. Elles sont réparties sur une sphère, donc la sphère céleste, et cette sphère est peut-être infinie vers le haut. Donc le monde, si vous voulez, peut être infini, mais il présente une singularité qui est notre système solaire. Le Soleil est au centre du monde, mais pour expliquer... le mouvement irrégulier des planètes et de la Terre, il est obligé de placer le Soleil à côté du centre du monde. En fait, c'est le centre de l'orbite terrestre qui est au centre du monde. Et cela lui permet d'expliquer un phénomène aussi connu que l'irrégularité de la durée des saisons. Le Soleil est le corps le plus gros du système. Son volume est 160 fois celui de la Terre. Alors évidemment, par rapport aux données actuelles...
Il est un peu dedans.
Il est un peu petit. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le système était 20 fois plus petit que le nôtre. Les distances réelles des planètes au Soleil ne seront déterminées qu'au XVIIe siècle, grâce aux astronomes de l'Observatoire de Paris notamment. Alors Copernic est guidé par des considérations d'harmonie. Les mouvements des planètes sont plus simples si on les rapporte au Soleil que si on les rapporte à la Terre comme le faisaient les anciens. Le Soleil est fixe, les planètes vont d'autant plus lentement qu'elles sont loin du Soleil, et la sphère des fixes est immobile. Il obtient donc un système harmonieux, La seule difficulté, c'est bien sûr les mouvements irréguliers des planètes qu'il va solutionner en faisant décrire la planète sur une combinaison de cercles, des grands cercles et des petits cercles.
C'est ce que faisait Ptolémée déjà.
C'est ce que faisait Ptolémée, mais Ptolémée le faisait pour expliquer la rétrogradation des planètes.
D'accord.
Le soleil est la lampe du monde, c'est-à-dire l'image visible du Dieu créateur. Cette idée provient des pythagoriciens et des platoniciens. Donc le côté métaphysique de Copernic ressort encore à ce moment-là.
De toute manière, son système est un modèle.
Voilà.
Un modèle idéal. Effectivement, il a, je crois, fait quelques observations, mais il n'a pas vraiment tiré son modèle des observations, comme le fera plus Kepler après et d'autres.
Voilà. Et le soleil n'a pas de rôle moteur. Hein. Le soleil règne comme un roi sur sa cour, si vous voulez.
Ou un berger sur son troupeau.
Ou un berger
ça sur fait moins son joli troupeau. Quand même, un berger.
Mais ça serait plus ecclésiastique.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà.
Donc son monde, son univers n'est pas homogène. J'ai relevé que dans la cosmologie moderne, il existe un principe copernicien sur l'homogénéité de l'univers. Copernic n'aurait pas été du tout d'accord avec cela. Même si l'univers est infini, notre système solaire occupe une place privilégiée dans la création. Donc pour résumer la place de la Terre est mobile, bien sûr. Alors il parvient à expliquer les mouvements des corps sur la Terre avec la rotation de la Terre, chose que les anciens n'arrivaient pas à expliquer. Pour lui, quand une pierre est lancée vers le haut, elle conserve le mouvement de rotation qu'elle avait acquise la rotation de la Terre.
Ce qui est vrai actuellement.
Idée très moderne. Ouais.
Oui, mais ce n'est pas une explication physique, c'est plutôt que la pierre garde le mouvement de la totalité à laquelle elle faisait partie. C'est plus un raisonnement encore métaphysique qu'un raisonnement...
Qu'elle appartenait à la Terre, donc elle a le mouvement de la Terre.
Voilà, d'accord. Exactement. C'est ouais. Pas comme Galilée qui ouais. fera des hypothèses physiques. La Terre est un centre particulier des graves, c'est-à-dire que les corps vont tomber sur la Terre, ça on le savait. Chaque planète, la Lune, le Soleil sont un centre de graves, mais il ne faut pas voir là une anticipation de la gravitation universelle. Si la Lune attire ses pierres, la Terre n'attire pas la Lune, comme elle le fera par exemple chez Newton.
D'accord.
La Terre est une planète comme les autres. Chez Aristote, comme chez les anciens, la Terre était le lieu du changement et de la corruption, par opposition aux astres qui étaient parfaits et incorruptibles. Les planètes sont des corps parfaits, mais Copernic ne dit pas si les planètes acquièrent une certaine imperfection liée à la Terre ou si la Terre acquiert une perfection liée aux planètes. Étant donné que la Terre est un corps céleste, est-ce que la Terre est arrangée au rang divin ou alors est-ce que les planètes sont arrangées au rang des corps ordinaires ?
Et ça, il ne le précise pas, en fait.
Ça, il ne le précise pas.
Donc, en fait, toutes les planètes, sauf la Terre, sont divines, en fait.
Voilà.
D'accord. Il
n'imagine pas que les planètes puissent être habitées, par exemple, comme le fera Giordano Bruno en 1600. La Terre reste proche du centre du monde. C'est vrai qu'il l'a délogée de ce centre, mais... La Terre reste quand même relativement proche du centre du monde. Le diamètre de l'orbite terrestre est infime par rapport aux dimensions qu'il attribue à la sphère des fixes. Alors avec quoi travaillait Copernic ? Alors il ne dispose pas d'instruments nouveaux par rapport à ses prédécesseurs. Il a un observatoire qui est privé, comme tous les observatoires de l'époque. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on fondera des observatoires publics comme Greenwich ou celui de Paris.
D'État plutôt, oui.
D'État plutôt. Oui, public, c'est une autre notion. Il utilise peu d'observations. En tout cas, il utilise 27 observations personnelles. Et pour chaque planète, il va essayer de concilier ses observations personnelles avec des observations de Ptolémée. Ce qui l'entraînera à faire certaines erreurs, puisqu'il aura toujours tendance à accorder une grande confiance aux anciens, sans penser, par exemple, que l'Almageste a pu être corrompu dans les différentes transcriptions. Parce que je vous le rappelle, l'imprimerie était récente, et durant tout le Moyen-Âge, les livres étaient recopiés à la main. Donc des erreurs étaient facilement
imaginables.
Et la physique de Copernic reste essentiellement celle d'Aristote, il n'apporte rien de nouveau en ce sens. Un mot sur la précision. La précision de ses observations, c'est 10 minutes d'arc.
Il faudra écouter Olivier pour expliquer ce que c'est une minute d'arc.
Voilà. Et Tycho Brahe réduira cette précision à une minute d'arc, une cinquantaine d'années plus tard. Alors, je vous ai dit qu'il avait publié son livre vers 1540. Il ne faut pas croire qu'il craignait les foudres de l'Église. Bien au contraire, celle-ci était curieuse de son système. Ce n'est qu'après, avec la réforme luthérienne, qu'elle va se montrer hostile, puisque combattue dans sa doctrine, elle sera obligée de rigidifier ses positions. Et quand on est sur la défensive, on est toujours moins tolérant. Mmh. Ce qu'il craignait, c'est de ne pas être compris des philosophes. Le mouvement de la Terre présente une absurdité apparente. C'est vrai que ça ne correspond pas du tout à notre expérience quotidienne. Et ça, il pensait que le commun des mortels ne l'accepterait jamais. Et les philosophes non plus, pour des raisons physiques, parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer pourquoi les corps terrestres restaient collés à la surface terrestre si celle-ci tournait sur elle-même et autour du Soleil. Mmh. Et en plus, comment alors admettre le rôle que le Créateur a attribué à l'humanité en la plaçant, si on place la Terre au centre du monde? Si on la déloge du centre du monde, l'humanité n'est plus vraiment au centre de la création.
Une des grandes idées dans ce système-là, c'est finalement la Terre n'est plus unique. À partir du moment où elle n'est plus unique, tout est possible. Et quand Newton après mettra que les choses, enfin Galilée verra que les choses du ciel également sont changeantes, et quand Newton reliera la physique céleste à la physique terrestre, en effet, du statut tout à fait particulier de la Terre.
Exactement. Copernic était un ecclésiastique, donc pour lui, l'homme était quand même le but de la création. Donc il va sauver ça en plaçant la Terre relativement proche du centre du monde. Les étoiles sont infiniment loin, donc l'humanité peut quand même occuper une place privilégiée dans l'univers. Donc Copernic et la religion, donc Dieu a quand même créé le monde pour l'humanité, ce qui est une attitude traditionnelle, surtout chez un religieux. Donc il réussit à concilier quand même l'héliocentrisme avec sa religion, bien sûr sans aller plus loin qu'il ne faudrait aller, hein, si les planètes ne sont pas des corps divins ou si elles sont des autres terres, effectivement on peut imaginer d'autres humanités, mais là il ne franchira pas le pas. Un mot sur l'avenir de ce système sera popularisé par Giordano Bruno, hein, qui sera brûlé vif en 1600. Kepler trouvera les lois qui régissent les mouvements planétaires en 1609. Kepler est un copernicien convaincu. Et donc, dans le milieu du XVIIe siècle, les astronomes de l'Observatoire de Paris donneront les véritables dimensions du système solaire. Un mot encore, si vous le permettez. En 1576, on trouve chez un Anglais, Thomas Digges, une reproduction du système de Copernic, de son schéma, dans lequel celui-ci va un petit peu plus loin que Copernic sans oser franchir encore le pas. Pour lui, le Soleil est bien le centre du monde, les étoiles sont dispersées autour du Soleil, mais cette fois les étoiles sont plus grosses que le Soleil. Donc c'est un premier pas vers un univers infini, mais Thomas Digges ne franchit pas le pas. C'est Giordano qui franchira le pas de cet univers infini. Mmh.
Mais il a surtout été condamné pour avoir prétendu que la vie pouvait être, enfin que des hommes pouvaient exister sur d'autres planètes. Ça, c'est quelque chose qui passait mal, plus oui. Que le reste d'ailleurs.
Oui, mais l'infinité de l'univers, c'est aussi attribué à l'univers un caractère de perfection qui n'est attribuable qu'à Dieu. S'il n'y a que Dieu qui peut avoir qui peut bénéficier du caractère infini. L'univers.
C'est surtout que si l'univers est infini, Dieu en fait partie.
Voilà.
Donc il ne peut pas l'avoir créé. Donc on retrouve un peu des idées.
C'est un peu compliqué au niveau ecclésiastique.
Ouais. Voilà.
Donc Christian, ce qu'on voit dans les livres souvent, c'est on voit le schéma de Copernic, le système solaire, mais on voit vraiment que les cercles principaux. Donc en fait, ça c'est un. Si les gens le voient bêtement, ils vont se dire il est faux. Alors il faut bien penser qu'il a pensé à mettre ça sur des cercles. C'est-à-dire que les planètes ne tournent pas sur un cercle principal, sur une sphère, ils tournent sur une sphère qui tourne elle-même autour de la sphère.
Exactement.
Sur les livres, on voit vraiment que les six planètes connues à l'époque qui tournaient autour. Et en fait, je trouve ça un peu dans les livres, ils se soucient
peu. On ramène un peu le travail de Copernic à notre vision d'aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est une lecture de l'histoire qui est un défaut qu'on retrouve souvent chez les historiens naïfs ou débutants. Et il faut vraiment voir tout ça dans son contexte. Je pense que les anciens étaient beaucoup plus intelligents qu'on ne croit. D'ailleurs, on ferait pas mieux si on était à leur époque. Mmh. Hein.
Oui, et puis la plupart des historiens des sciences se sont arrêtés au premier chapitre du livre de Copernic.
Voilà, c'est
là où il expose son système de façon relativement simple, où il y a ce fameux schéma que l'on voit partout dans les livres d'astronomie. Mais la partie plus compliquée où on a des petits cercles, des combinaisons de cercles, il faut lire les chapitres suivants. Et là, très peu on franchit ce pas, parce que bon, c'est un livre ardu, assez difficile. Et donc le plus intéressant, en fait, c'était la première partie, parce que c'est le... Oui, c'est le schéma le plus simple, mais effectivement, les mouvements plus compliqués des planètes, il faut se plonger dans cette lecture et beaucoup n'ont pas franchi le pas.
Mais c'est vrai que si on lit bêtement le premier schéma, comme tu dis, en fait, il ne s'accole pas du tout avec l'observation, mais qu'il n'aurait jamais pu pouvoir publier ça, parce qu'en fait, ça aurait jamais s'accolé pas par rapport à l'observation. Il faut obligatoirement avoir les cercles en plus, les petits cercles en plus.
Voilà, Copernic était entre deux tendances. Soit il en restait à ce système un peu idéal, un peu parfait. Soit alors il tenait compte des observations qui montraient que les planètes n'ont pas des mouvements réguliers, et à ce moment-là il fallait effectivement compliquer le système. C'est ce qu'il fera donc dans les autres chapitres, où il y a les épicycles, les déférents, enfin toutes ces sortes de combinaisons de cercles, ce qui fera dire à certains que son système était aussi compliqué que celui de Ptolémée. Il y avait autant de cercles, sinon plus dans le système de Copernic que dans le système de Ptolémée. Mais l'idée de base, quand même, l'idée simplificatrice, c'est bien de rapporter les mouvements des planètes au Soleil et non pas à la Terre, comme le faisaient les anciens.
Quand tu dis que c'est des mouvements réguliers, simplement parce qu'en fait, les planètes se baladent selon une ellipse, non pas un cercle. Donc, pour pouvoir faire un orbite elliptique avec des cercles, il faut mettre des cercles concentriques pour réussir à ce que, en fait, ça donne à peu près l'allure d'une ellipse. Merci, Christian. Voilà. Après la pause, vas-y.
Pardonne-moi, Thierry. On peut peut-être ajouter que Christian, en fait, il les a lus, les autres chapitres.
Hein, bah oui,
j'ai bien compris.
C'est pour ça qu'il passe à la radio. Et... C'est que on a des gens très compétents à la SAN qui continuent à lire complètement les livres et non pas s'arrêter au premier chapitre.
Quelque chose qui, effectivement, que tu peux pas dire toi-même, mais c'est vrai que Christian Scotta a fait une traduction de des principes mathématiques de la philosophie naturelle. Philosophie naturelle, c'est-à-dire la physique de Newton. Et après la marquise du Châtelet.
Exactement. Voilà. Je reviendrai en parler si vous voulez une prochaine fois.
Merci Christian. Après la pause musicale, nous allons parler des mesures angulaires du ciel et de la spectroscopie. À tout de suite. Maintenant, Olivier Fortenot va nous parler des mesures angulaires du ciel dans la chronique Astropratique. Alors Olivier, c'est quoi donc les mesures angulaires du ciel?
Je ne vais pas te répondre directement comme ça. Je vais parler des mesures angulaires dans le ciel et puis de ce qui est directement associé aux mesures angulaires, c'est les coordonnées célestes, hein, les différentes coordonnées, les systèmes de coordonnées. Alors avant, un petit rappel, enfin une petite intro sur les degrés. Hein, qu'est-ce que c'est que des degrés? Alors en fait, ça vient de nos anciens, de nos ancêtres, qui pensaient qu'autrefois, la Terre tournait autour du Soleil en 360 jours.
Ils étaient pas loin de la vérité.
Ils étaient pas loin de la vérité. Et puis, par contre, ils étaient un peu moins loin. Ils disaient que c'était un cercle également.
Voilà.
Hein? Donc, en fait, ils sont partis sur cette base-là. Et puis, ils ont défini le degré comme un jour de rotation de la Terre autour du Soleil. Bon, ils en font, puisqu'elle tourne en 365 jours un quart. Et puis, c'est une ellipse. Mais enfin, en tout cas, on a conservé ce qu'ont réalisé les anciens. Et puis, de toute façon, les systèmes de coordonnées, ce sont les anciens qui les ont basés au départ.
Puis, c'est une mesure naturelle. Alors, on cherche beaucoup ça en science, hein, oui. Les mesures naturelles.
Bah, maintenant, on a fait une mesure qui est un peu moins naturelle, mais beaucoup plus mathématique, qui sont les radians.
Donc, qui est plus naturelle.
Ah oui, oui. Moi, je trouve pas.
Mais si, enfin, on expliquera ça un autre jour.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un degré en lui-même On peut également le diviser. Hein, il y a d'autres dimensions qui sont un peu plus faibles que le degré.
Je te coupe deux secondes. C'est que 360 degrés, j'ai oublié de le dire. C'est vrai que l'avantage aussi, c'est que c'est divisible par beaucoup de chiffres.
Oui.
Si on avait pris la vraie valeur de 365, c'était divisible par...
365, un quart et sur une ellipse.
Voilà. Donc, j'explique pas pour le diviser, ça aurait été un peu compliqué. Alors, 360, vous pouvez le diviser par beaucoup de chiffres.
Oui, puis les multiples de 60 étaient très prisés. Je crois qu'il y a beaucoup de peuples qui comptaient en base 60. Hein. Mmh. C'est quelque chose qui était assez répandu.
Alors... Ensuite, les degrés donc, qui sont divisibles en minutes d'arc, on dit. Et puis une minute est divisible également en secondes d'arc. Donc en fait, dans un degré, il y a une minute d'arc. Et puis dans une minute d'arc, il y a 60 minutes d'arc. Et puis dans une minute d'arc, il y a 60 secondes d'arc.
Voilà,
on parle d'arc parce que l'angle, ça, c'est comme s'il se projetait sur un cercle. Donc,
à partir de ces bases mathématiques, on part sur les coordonnées de systèmes, hein. On fait des systèmes de coordonnées. Alors en astronomie, on a plusieurs qui sont utilisés, certains qui sont de moins en moins utilisés, puis d'autres de plus en plus. Alors le premier, c'est les coordonnées, un système de coordonnées altazimutal, qui est utilisé lorsqu'on souhaite positionner un phénomène visible dans le ciel, style passage de satellite ou alors passage d'étoiles filantes.
C'est par rapport à la verticale et l'horizontale.
Voilà. Donc en fait, c'est basé sur un cercle qui suit l'horizon de l'observateur. Hein. Le nord, c'est égal au zéro, au zéro degré. Le sud égale 180 degrés, donc quand on fait un tour, ça fait 360 degrés. L'est, c'est 90 degrés, et puis l'ouest, c'est 270 degrés. Et on puis à ça, donc ça, c'est l'azimut, et à ça, il y a une altitude, pour bien positionner l'objet dans le ciel. L'altitude, elle part de 180 degrés lorsqu'on est au zénith, c'est-à-dire l'objet est juste au-dessus de nous, au-dessus de notre tête, et puis on descend au fur et à mesure jusqu'à 0 degré, c'est-à-dire que l'altitude 0, c'est égal à l'horizon.
Et moins 180, enfin, moins 180 degrés, que, voilà. C'est le nadir, ça s'appelle.
Voilà, c'est le nadir, mais c'est sous nos pieds, donc il y a le sol terrestre qui nous empêche de le voir. Donc en fait, ce système de coordonnées, il est propre à l'observateur. Hein. Il ne suit pas du tout le mouvement des étoiles.
Puis
donc,
il varie avec l'heure du jour, en fait, puisque la Terre tourne.
Non, il est propre à l'observateur. Donc le nord est toujours pareil pour l'observateur, s'il ne bouge pas.
Oui.
Hein. Par contre, le ciel, lui, tourne. Alors on a créé un autre système de coordonnées, qui sont les systèmes équatoriaux. Les systèmes de coordonnées équatoriales, qui lui suit le mouvement des étoiles. Mmh. Hein, c'est un système complètement différent. Il est basé sur une ligne qui part du pôle nord céleste jusqu'au pôle sud céleste. Alors le pôle nord, bon, je pense que tout le monde sait, avec les émissions de la SAN, on en a parlé plus d'une fois, le pôle nord céleste, c'est l'étoile polaire.
C'est le prolongement de l'axe de la Terre vers le nord.
Voilà, c'est exactement le prolongement de l'axe de la Terre. Donc on se rapproche beaucoup des coordonnées qui sont longitude et méridien par rapport à la sphère terrestre. Alors, ces coordonnées, par contre, sont un peu plus compliquées, puisqu'elles sont inclinées, de par l'inclinaison de la Terre, et ne sont pas propres du tout à l'observateur. Si on change de position, on doit changer de système de coordonnées, d'accord ? Alors, ces coordonnées, il y a deux systèmes, il y a le alpha et puis ce qu'on appelle le delta. Le alpha, il va en gros de l'ouest à l'est, d'accord ? C'est séparé, non pas en degrés, mais en heures, minutes et secondes. Alors c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Et puis le delta, lui, par contre, est classiquement comme pour un cercle, c'est séparé en 360 degrés.
Le premier, c'est l'ascension droite, c'est ça ?
Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ascension droite, et le deuxième, c'est la déclinaison. Alors rapidement, ces degrés sont beaucoup utilisés lorsqu'on souhaite manipuler un instrument, parce que c'est exactement ce qu'on souhaite faire avec un instrument
tout à fait.
D'observation, c'est suivre la rotation des étoiles.
Qui est orienté d'ailleurs parallèlement à l'axe de la Terre.
Voilà, et qui est orienté parallèlement à l'axe de la Terre, d'où le nom de la monture, qui est une monture équatoriale. Ce système de coordonnées, on l'utilise beaucoup également pour des mesures angulaires, donc le thème de mon intervention. Alors en fait, on s'aperçoit que la Lune, elle fait que 0,5 degrés hein, de mesure angulaire.
30 minutes d'arc.
Voilà. On pourrait ainsi cumuler 720 lunes pour faire exactement 360 degrés.
Pour faire le tour du ciel. C'est impressionnant parce que tout le monde voit la Lune comme étant un truc très grand.
Et le pire,
quand on dit aux gens qu'en fait la Lune en diamètre angulaire, hein, c'est-à-dire en taille apparente, elle est pas plus, elle est la même taille que le Soleil, il faudrait 720 soleils pour faire le tour, de la Terre.
C'est impressionnant.
Ouais, un tour complet.
On peut dire ça.
Pour essayer de voir ce que c'est que les degrés, vous pouvez également prendre votre main et puis la projeter sur le fond du ciel. Et puis vous pouvez ainsi, en écartant vos doigts, avoir un aperçu de 15 degrés. Qu'est-ce que c'est que 15 degrés, d'accord, dans le ciel ? Alors il y a d'autres systèmes de coordonnées qui existent. Ce sont les coordonnées écliptiques, bon, qui sont de moins en moins utilisées. En fait, les coordonnées écliptiques suivent le mouvement du soleil dans le ciel. Et puis par contre, il y a des coordonnées qui sont de plus en plus utilisées par les scientifiques. Ce sont les coordonnées galactiques, qui suivent la galaxie. Donc la fameuse voie lactée qui traverse le ciel. Là, la galaxie a son propre système de coordonnées, et ça permet de positionner les différents objets qu'il y a dans notre galaxie, dans notre ciel à nous.
On peut peut-être donner une petite idée, Olivier, sur ce que représente... Bon, tu as parlé de la Lune qui représente un demi-degré. Hein.
Alors, le Soleil, pareil, c'est pour ça qu'on a les
éclipses. On peut peut-être donner l'exemple de la seconde d'arc. Qu'est-ce que c'est une seconde d'arc ? Ça correspond à une pièce de 5 francs, je crois, qui est vue à...
À 60 km. À 6 km.
C'est incroyable. Kilomètres.
Et puis, donc, les capacités des télescopes, des futurs télescopes qui vont être mis en service, c'est plus la seconde d'arc, c'est le centième de seconde d'arc. Hein. C'est ce qu'on peut vraiment obtenir.
Ça serait une pièce de 5 francs vue à 600 km.
À 600 km.
Ils sont capables de voir ça.
Voilà, c'est ça.
Ils seront, parce que pour l'instant, ils ne le sont pas.
Il faut savoir qu'en fait, après la seconde d'arc, après, on n'a plus d'autres caractères spéciaux ou de mondes bizarres, c'est des dixièmes, centièmes, etc.
Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que les astronomes, a priori, maintenant, ils connaissent la distance des objets, mais on a. quand il ne la connaissait pas, il voyait simplement un objet par sa taille apparente. Alors, par exemple, ça pouvait être un petit objet vu de près ou un très gros objet vu de loin, mais les deux avaient, c'est comme le Soleil et la Lune, en fait. Ils ont apparemment le même diamètre. Et c'est pour ça qu'on parle d'un diamètre angulaire en astronomie.
Voilà. En astronomie amateur, ça reste très conservé. Ça. Bah oui. Parce que c'est le diamètre, enfin, c'est la taille de l'objet qu'on peut observer dans l'instrument.
C'est le truc immédiat.
Voilà.
Merci Olivier. Nous allons maintenant parler d'un outil extraordinaire qu'est la spectroscopie en compagnie de Daniel Worling.
En compagnie, c'est joli. Il n'y a pas de bing 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 avant, moi.
Non,
c'est,
non,
j'ai pas droit aux trompettes d'Aïda.
Tu veux que je te fasse les mystères de l'Ouest?
Il n'y a pas trop de nuages en ce moment. Alors, je vais vous parler effectivement de spectroscopie. Alors, en fait, bon, la spectroscopie, on va l'expliquer, mais tout le monde connaît un petit peu ces espèces de maintenant, on connaît de plus en plus ces espèces de codes-barres. Et tout le monde, enfin, j'espère, enfin, la plupart des gens ont lu un Tintin où on voit l'astronome brandir une espèce de ruban avec des bâtons, alors il montre ça à Tintin, hein, qu'est-ce que vous en pensez, c'est affreux, et Tintin, il comprend rien, évidemment, il voit une espèce de grand codes-barres. Et en fait, l'astronome, il montrait ce qu'on appelle un spectre. Actuellement. Hein. Alors bien sûr.
Je rappelle que c'est dans l'étoile mystérieuse qu'on voit ça.
Exactement, dans l'étoile mystérieuse. Merci, mon cher Thierry. Alors, ce qui me fascine dans la spectroscopie, c'est pas seulement l'aspect technique, qui est à la fois une technique finalement assez ancienne, puisqu'elle naît au XVIIe siècle, et c'est devenu un outil extraordinaire, et surtout, ça a jalonné l'histoire de l'astronomie, ça a eu un développement prodigieux, puisque c'est grâce à la spectroscopie qu'on a pu percer la composition des étoiles, de façon tout à fait indirecte, mais de façon magistrale. Alors, c'est un rôle considérable, puisque c'est à travers le développement d'un outil dont on parlera peut-être une autre fois, qui s'appelle le diagramme HR, ou Hertzsprung-Russell, j'ai réussi.
À tes souhaits, c'est bien.
Voilà. Et c'est devenu une espèce de pierre de touche, un outil de l'astrophysique et surtout de cosmologie. Alors, on y reviendra. Bon, voilà, ça c'est pour dire que c'est un outil extraordinaire. Alors, les astronomes amateurs commencent aussi à faire de ce qu'on appelle la spectro, dans notre jargon. Alors, comment ça marche?
Vas-y.
Eh bien, alors c'est une technique d'analyse de la lumière, on va le dire tout de suite.
Assez récente, en astronomie.
Oh, plus de 3 siècles.
Ouais, bah c'est assez récent, par rapport aux mesures angulaires qui sont beaucoup, beaucoup plus vieilles.
Certes. Alors en fait, on s'est intéressé, vous savez que les étoiles, c'est des petits points lumineux, et pendant très longtemps, à l'œil nu, on voyait des... Et pendant longtemps, on voyait ces points dans le ciel, et puis on s'intéressait qu'à leur clarté, parce qu'on ne voyait pas leur couleur. Et les télescopes, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas réussi à montrer plus que ça. Hein, en fait, on était étonnés, parce que bon, Galilée a vu des planètes, a vu des mouvements des satellites de Jupiter, mais les étoiles, pouf, elles restaient des petits points lumineux. Alors, il faut savoir qu'il y a 7000 étoiles visibles à l'œil nu. Alors, pendant l'Antiquité, qu'est-ce qui s'est passé sous l'Antiquité? On n'avait pas d'instrument, donc les observations à l'œil nu, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dressé des cartes du ciel avec des constellations, on a fait après des catalogues, ça a duré jusqu'au 19e siècle.
Les systèmes de coordonnées viennent de là, de ces époques-là.
Absolument.
On commençait à repérer la position des étoiles.
Parce que les étoiles, au fond, sont fixes. Enfin, elles sont en mouvement, elles sont tellement loin, on l'a su après, que même si elles se baladent très très rapidement, en fait, à notre échelle, elles ont l'air de ne pas bouger. Ce qui a donné d'ailleurs l'idée que le ciel contenait des choses éternelles, immuables, qui servaient de repère.
Ce qu'a parlé Christian tout à l'heure.
Donc voici un petit peu l'idée, c'est que les étoiles sont trop loin pour que les télescopes puissent les étudier, d'où l'idée de développer des méthodes indirectes. Sauf récemment, je crois qu'on a réussi maintenant, pour la première fois il y a quelques années, à mesurer le diamètre d'une étoile par la spectroscopie. Hein.
Avoir même une tache.
Et voilà, sur Bételgeuse, qui est la...
C'est vraiment très 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 récent, par contre.
Alors, parlons rapidement de, pas de toute l'Antiquité, mais ce qui s'est produit par rapport à l'éclat des étoiles. Ptolémée, dans son Almageste, en fait une première distinction d'étoiles en classe. Il parle d'étoiles de première grandeur, de deuxième grandeur, etc. C'est quoi les étoiles de première grandeur? C'est les plus brillantes, évidemment. Mais c'est surtout celles qui apparaissent le premier dans le ciel, peu après le coucher du soleil. Après, il y a les deuxièmes grandeurs, et etc., jusqu'à la sixième grandeur. Et il introduit le terme de magnitude. Magnitus, magnus, ça veut dire grand. Et c'est donc la grandeur de l'éclat des étoiles.
Hein. Ce qui est toujours utilisé actuellement. On appelle ça la magnitude d'une étoile.
Tout à fait. Voilà. Donc, On parlait que d'éclat apparent à l'époque, parce qu'au fond, on croyait que toutes les étoiles étaient situées à la même distance, donc l'éclat apparent, ça correspondait à un éclat réel, on se fichait un peu de...
Donc actuellement, on a la magnitude visuelle, ou la magnitude tout court, et la magnitude réelle, qui est la magnitude à une certaine distance de l'étoile.
Tout à fait, hein, donc j'y venais. En tout cas, un nommé Pogson en 1809, il est né en 1809, donc en 1809, il n'a rien fait. Il a fait il s'est basé sur les études d'un biologiste, qui a constaté que la sensation physiologique de clarté était linéaire. Il fallait multiplier en fait l'éclat d'une étoile par 10 ou par 100 avant de voir une clarté augmenter. C'est-à-dire qu'en gros, l'augmentation d'une unité de magnitude dans son échelle, ça correspond à une diminution de l'éclat de 2,5. Ou si vous préférez, une diminution d'une unité de magnitude, c'est une augmentation d'éclat de 2,5 fois. Par exemple, une étoile de magnitude 5 est 100 fois moins lumineuse qu'une étoile de magnitude 0. Hein, les astronomateurs parlent comme ça aussi. Ils disent une étoile de magnitude 5. Ah, toi, tu vas jusqu'à la magnitude 11, voilà. Tu es un crack.
Voilà. Ça dépend de l'instrument. Enfin, plus vous avez un gros instrument, vers des magnitudes.
Voilà, tout à fait. J'ai dit qu'on ne voyait pas plus sur une étoile, mais on voit beaucoup plus d'étoiles, même avec des jumelles, hein, n'est-ce pas? Alors, jusqu'au milieu. Donc, qu'est-ce qui se passe après? On va arriver à la spectroscopie. Alors, c'est là qu'entre en scène la spectroscopie qui est née. Alors, on va le voir pratiquement il y a 3 siècles. Tout commence. Alors, il y a un point d'interrogation, vous allez voir pourquoi. Officiellement, c'est Newton, encore lui, qui en 1666, s'appuyant d'ailleurs sur les idées de Descartes, qui avait déjà suggéré que la lumière blanche serait peut-être un mélange de toutes les couleurs, parce que lui, il avait étudié la vision. Il s'est dit, dans l'œil, il ne peut pas y avoir toutes les couleurs. Il y a des cellules pour 3 couleurs fondamentales, et après, elles se combinent différemment pour donner la sensation de toutes les couleurs. Et pour avoir la sensation du blanc, peut-être que justement c'est un mélange des 3 égales. Et Newton a donc fait une expérience extraordinaire. Il a fait un petit trou dans une cabane, il a mis un prisme et ça a étalé la lumière comme un arc-en-ciel. Ça c'était la première chose pour dire que la lumière blanche, ça faisait toutes les couleurs. Alors ce qu'il a fait, beaucoup plus fort, il a recombiné ces couleurs en mettant derrière une lentille. Et il a recomposé la lumière blanche.
Qui, entre guillemets, annulait l'effet du prisme.
Tout à fait. Donc, il avait la preuve que le blanc était un mélange de toutes les couleurs et qu'on pouvait recombiner les couleurs pour faire du blanc. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais par contre, son expérience, il n'en a pas parlé à ses profs parce qu'à l'époque, il était étudiant. Il a attendu 10 ans, je crois, ou 6 ans. Enfin, je ne sais plus. Parce qu'il avait honte. Il ne savait pas s'il ne disait pas une connerie, pour être poli. Alors, il invente le terme de spectre. Ça vient du latin spectrum, qui veut dire apparition.
Donc, si vous pensez, c'est pour ça, en fait, qu'il y a les spectres qu'on appelle les fantômes. Les spectres,
ce sont des fantômes, tout simplement. Ce qui n'empêche pas Goethe, un siècle après. Goethe est un grand poète, mais surtout un grand scientifique. Il a fait lui aussi une théorie de la vision des couleurs après Descartes. Et il a fait une théorie très différente. Et puis, il a trouvé que ce qu'avait fait Newton était idiot. Enfin, il avait grand tort. En fait, on était en 1666. On attend 1814 avec Fraunhofer, qui observe pour la première fois le spectre du Soleil. C'est un opticien remarquable. Lui, il n'a pas utilisé des prismes, il a utilisé des réseaux. Hein, il a détecté 600 raies sombres dans le Soleil. Ah, ça c'est curieux. On va y revenir. Alors aujourd'hui, on détecte plus de 20 000 raies sombres dans la lumière du Soleil, donc, qui est étalée comme un arc-en-ciel, et dedans, il y a des couleurs qui manquent.
On va voir qu'en fait, si les gouttes d'eau pouvaient étaler beaucoup plus le...
On verrait
des petits traits, exact. Traits noirs, c'est pour ça qu'on appelle ça le goutte-barre.
Voilà, tout à fait. Et ça fait ça fait 20 000 raies, ça fait pas mal de raies, hein, ça fait un goutte-barre. Alors, il a fabriqué des réseaux et il a eu l'idée de regarder les étoiles avec
donc
ça.
Donc un réseau, c'est un instrument optique qui permet de décomposer la lumière.
Exact, on l'a utilisé en
photographie. Ça n'a rien à voir avec l'informatique.
Oh bah, oui, c'est vrai.
On les neurones.
Il faut être informaticien, avoir des pensées aussi vicieuses. Hein, bon.
Merci Daniel.
Alors, dès 1802, d'ailleurs, un nommé Wollaston avait observé les mêmes raies sombres, mais lui, il n'avait pas compris. Il croyait que l'étoile, le soleil émettait toutes les couleurs moins certaines. Hein. Ah ouais. Alors maintenant, on arrive en 1859 avec Kirchhoff et M. Bunsen, le même du Beck. Hein.
Voilà.
Alors, M. Bunsen ne s'appelait pas Beck, mais je ne connais pas son prénom. Donc, M. Kirchhoff et Bunsen mettent au point un procédé, c'est-à-dire des chimistes. Et eux s'étaient intéressés par l'analyse des éléments d'une substance. Et pour détecter ces éléments, ils ont eu l'idée de les brûler. Ils se sont aperçus que quand on brûlait différents corps, il n'y avait pas la même couleur de flamme. Ils se sont demandé s'il n'y avait pas une relation entre la composition d'un corps simple et sa couleur de flamme. Et donc... Et maintenant, si on analyse un corps qui est excité soit par une flamme, soit par dans un tube, ce qu'on appelle un tube à néon, mais un tube à ionisation, différents corps simples, l'hélium, le néon et d'autres corps, on s'aperçoit qu'ils émettent de la lumière. Mais quand on étale cette lumière par un prisme et qu'on regarde dedans, en fait, curieusement, on voit une bande bleue, une bande rouge, une bande jaune. Enfin, on voit des lumières.
On voit pas un arc-en-ciel.
On voit pas un arc-en-ciel. On voit des traits, mais de couleurs. Et Fraunhofer a été très intelligent, il s'est dit, au fait, mes raies sombres, c'est pas que le soleil il émet un arc-en-ciel moins certaines couleurs, c'est simplement qu'il émet un arc-en-ciel complet, mais qu'autour du soleil il y a d'autres gaz qui vont, quand ils sont excités, ils émettent ces couleurs-là. Eh bien, quand ils absorbent effectivement les mêmes couleurs lorsqu'ils pompent de l'énergie à leur environnement. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer.
En fait,
mais...
je ne sais pas si c'est pour simplifier, mais en fait, quand on prend un gaz, qu'on peut prendre comme le néon, par exemple, si on l'excite, il va avoir quelques raies. Et en fait, si on prend une lumière qu'on considère comme blanche, comme presque parfaite, qu'on fait traverser du néon, les mêmes raies, elles vont devenir sombres parce qu'en fait, le néon lui-même va absorber cette partie du spectre.
Voilà, oui, c'est expérimental. Et bon, ça s'explique par la physique, évidemment, mais on fera ça une autre émission. Alors, il a donc émis la bonne hypothèse que les étoiles étaient entourées d'une atmosphère qui réabsorbait une partie des raies. Et alors là, c'est ça qui est formidable. C'est que autant Kirchhoff et Bunsen avaient mis au point un procédé pour faire une analyse chimique. C'était des chimistes, ils s'intéressaient à la chimie. Les astronomes voulaient trouver un moyen extraordinaire d'analyser la composition des étoiles sans y mettre les pieds, indirectement en analysant leur lumière. Donc on pouvait savoir par exemple que sur le Soleil, il y avait de l'hydrogène, du sodium, du fer, du calcium, du magnésium, du nickel et du chrome. Et alors, quelque chose d'étonnant, quelques années plus tard, ils détectent les raies d'un élément qu'on n'avait jamais vu sur Terre.
Mais donc en fait, ce qu'ils faisaient...
Ils ont découvert un élément nouveau.
Ils faisaient des expériences, donc ils faisaient chauffer du néon, hop, ils regardaient, ils notaient les raies. Et puis ils comparaient par rapport à du soleil, et ces trois-là, c'est le néon. Puis après, ils enlevaient les raies au fur et à mesure.
Chaque élément, il émet une espèce de mini code-barre. Voilà. Et l'étoile, elle émet un mélange de code-barre. Donc il faut trier là-dedans. Et puis bon,
et puis en fait, il en restait un, c'est ça?
Il en restait un qui était attribuable à aucun élément.
Et puis ils n'arrivaient pas à le trouver sur Terre.
Exactement. Et donc, ils ont découvert un élément nouveau qu'ils ont appelé hélium, puisque le soleil s'appelle hélios.
En grec.
Donc, voilà. Vous voyez, alors voici, et 2 ans après la découverte de Kirchhoff et Bunsen, donc en 1863, un nommé Janssen, qui a travaillé à l'observatoire de Meudon,
qui l'a construit.
Il identifie le sodium pour la première fois dans une étoile, dans le spectre de Bételgeuse. Voilà. Donc, c'est parti. Alors en 1862, donc c'est à peu près 1859, Kirchhoff et Bunsen y trouvent le procédé. 63, donc c'est 61. Janssen commence l'analyse spectroscopique des étoiles. Voici donc qu'en 1862, Donati, qui était un Italien, il publie le spectre de 22 étoiles. Et après, on va entrer en scène l'observatoire du Vatican, parce que vous savez que le Vatican a son observatoire, et il fonctionne toujours, et ce sont de très grands physiciens et astronomes. Secchi, un nommé le Padre Antonio Secchi, observatoire remarquable, fait le spectre de 4000 étoiles. Et il commence à voir qu'on peut peut-être classer les étoiles par rapport à leur spectre. Hein, le code-barre, en fait, il a des... On peut faire des grands tiroirs où il y a des codes-barres qui se ressemblent, bien qu'étant pas tout à fait identiques. Donc, il invente la notion de ce qu'on appelle le type spectral. Et alors, là, les choses vont changer, puisque pour l'instant, la spectroscopie, on regarde dans des prismes, et puis on dessine, et puis c'est long. Entre en scène, en 1843, un nommé John William Draper, qui avait réalisé d'ailleurs une des premières photographies du spectre solaire. Il meurt, et son fils Henri Draper photographie le spectre de Vega, de la Lyre, et le spectre de 80 étoiles. Et enfin, quand il meurt, sa veuve, crée la fondation Henri Draper, et qui finance l'observatoire de Harvard, avec un nommé Pickering, qui était un affreux type, qui a recruté plein de femmes, on ne sait pas pourquoi, mais on sait pourquoi.
Mais
il les a fait...
Quand il était affreux, c'est qu'il était apparemment...
Il vissait, il les a fait bosser. Mais bon, il ne travaillait plus avec une fente, à l'oculaire, mais il a inventé il a utilisé un prisme objectif où il pouvait photographier une centaine d'étoiles à la fois, ce qui lui permit de dresser, de compléter les catalogues d'étoiles, et on arrive à 10 000 étoiles, je ne sais plus en quelle année. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première femme qui s'est distinguée dans ces classifications s'appelait Williamina Fleming, qui était son assistante, et qui a créé 13 classes qui étaient basées sur le taux d'hydrogène décroissant. Elle a des appelés A, B, C, D, E, F. Après, il y a un intermède avec Antonia Mori, qui a voulu introduire une nouvelle classification, mais qui n'était pas très bonne, et Pickering l'a virée. Mais par contre, elle avait laissé quelque chose d'extraordinaire. Elle a trouvé une catégorie spéciale, les supergéantes, qui se classaient dans rien d'autre. Mm-hmm. Et enfin, Annie Jump Cannon va classer 1100 étoiles les plus brillantes de l'hémisphère sud. Elle va réaménager la séquence qu'avait introduite Williamina Fleming, et elle va bousculer un peu son ordre alphabétique parce qu'elle va se baser sur autre chose que l'hydrogène. Donc ça va plus s'appeler A, B, C, 2, mais ça s'appellera cette fameuse séquence O, B, A, F, G, K, M. O, B, A, Fine Girl, Kiss Me.
Pour s'en souvenir.
Et elle va créer des sous-classes. Vous avez, donc le soleil fait partie de la classe G2. Et puis enfin, alors là je terminerai par là, je vois l'œil angoissé de Thierry, pas de problème. Si tu me permets quelques 10 secondes encore, on va s'apercevoir après que ces classes d'étoiles qui étaient créées uniquement par similitude de spectre, elles vont correspondre à la... c'est d'ailleurs Annie Jump Cannon, la dernière, qui a eu cette idée-là de classer les étoiles finalement par spectre, mais aussi par couleur. Et s'est aperçu qu'il y avait une correspondance entre la couleur d'une étoile et son spectre. Et quand on verra par la suite, on racontera ça lors d'une autre émission, que la couleur de l'étoile est liée à l'énergie qu'elle émet, c'est-à-dire à sa taille, eh bien, on va pouvoir créer, et à sa taille, et toutes ces caractéristiques, donc spectre, couleur, température, parce que la couleur correspond à la température. Ben, tous ces trois paramètres, on va les mettre en abscisse, soit l'un, soit l'autre, mais ça marchera pareil. En ordonnée, on va mettre la magnitude absolue, c'est-à-dire la brillance réelle de l'étoile, compte tenu de sa distance, et on va avoir un diagramme extraordinaire, on va avoir ce fameux diagramme de Hertzsprung-Russell. Alors pour le faire, et je m'arrêterai là, la première fois, c'était fait sur l'amas des Iades, pour avoir des étoiles situées à la même distance, pour être sûr que la relation marchait bien. Et après, maintenant, c'est l'outil de base de l'astrophysique. C'est la naissance de ce qu'on appelait d'abord l'astronomie physique, qui s'est donc appelée plus tard l'astrophysique. Voilà. Alors voici, on est à la bonne moitié, mais la moitié la plus extraordinaire elle sera extraordinaire aussi par la suite, de l'histoire de cet outil fabuleux qu'est la spectroscopie.
C'est quasiment le démarrage de ce qu'on appelle l'astrophysique
maintenant. Exactement.
Merci Daniel. Nous allons retrouver Galilée et la fête de la science après un petit morceau musical. Voilà, la Société d'Astronomie Nantes va maintenant vous parler de Galilée, et c'est Fabrice Dubreuil qui va présenter ce personnage. Alors Fabrice, dans la chronique Histoire de Pulsan, tu as décidé de parler de Galilée.
Eh oui, Galilée. Alors je n'aurais franchement pas la prétention de vous faire tout Galilée en 5 minutes, c'est impossible, il faudrait faire du 24 mots à la seconde, du cinéma si vous voulez. Donc je vais faire un petit historique rapide. C'est en le 15 février 1564 que le petit Galileo Galilei est né à Pise, parce qu'il s'appelait comme ça de son vrai nom. À 17 ans, il rentre à l'université de Pise. Il en ressort 4 ans plus tard sans aucun diplôme, alors qu'il a étudié la médecine, la philosophie et les maths. Ce n'est pas ce qui l'empêche d'obtenir quelques années plus tard, en 1589, un poste de professeur de mathématiques dans cette même université. Commence alors pour Galilée une longue série de combats qui durera jusqu'à sa mort contre les théories aristotéliciennes.
Oh là là, mais t'aurais dû mettre un autre mot, hein.
Eh ben oui, mais c'est le nom. Qui font alors force de loi dans le monde et que Galilée va régulièrement remettre en cause en le payant parfois au prix très fort. Ainsi, il va, dès 1592, perdre son poste à l'université de Pise pour avoir prouvé que la théorie d'Aristote qui disait que la vitesse d'un objet était proportionnelle à sa masse était fausse. Cette découverte fondamentale, il va la confirmer quelques années plus tard à travers la loi de la chute des corps. Mais elle était un peu malvenue dans une université qui était dominée entièrement par les partisans d'Aristote.
C'est la vitesse de chute des corps, je crois, qui était proportionnelle. Les corps lourds tombaient vers le bas, en plus il disait que les corps légers tombaient vers le haut.
Tout à fait, et puis il disait finalement qu'un morceau de plomb, un morceau de plume et un paquet de plumes ne tombaient pas à la même vitesse, ce qui était complètement faux. Mais bon, tout cela ne perturbe pas trop Galilée, puisqu'il a à peine quitté Pise qu'il devient professeur de mathématiques à l'université de Padoue. À ce poste, il va donner ses lettres de noblesse à la physique expérimentale, c'est-à-dire la physique qui obtient des résultats par rapport à l'observation et non pas simplement par rapport à la théorie pure. Faire des résultats par rapport à la théorie pure, c'est un peu ce que font nos cosmologistes aujourd'hui, c'est-à-dire voilà. Que ça n'a un peu aucun sens.
Big Bang et compagnie.
Voilà. Ça a un sens à la condition, effectivement, que ça s'appuie sur, comme fera Kepler, en s'appuyant sur les observations de Tycho Brahe. Enfin bref,
tout si à c'est fait. Mais Kepler fait de la physique expérimentale, il ne fait pas de la physique théorique. Ouais. Et c'est ainsi qu'il va énoncer un certain nombre de lois concernant le mouvement des projectiles, des pendules et le phénomène des marées. Ce dernier point est important puisque c'est autour de celui-là qu'il va, à travers ce point, qu'il va s'impliquer dans le grand débat du début du 17e siècle, du 17e. La polémique entre les partisans de Ptolémée qui disent que la Terre est immobile et que les planètes tournent autour, et ceux des toutes nouvelles thèses de Copernic qui disent que la Terre tourne autour du Soleil et les planètes avec elle.
Dont on a d'ailleurs parlé
en début d'émission
tout à l'heure.
Mais par contre, étrangement, à cette même époque, Galilée, l'astronomie, il s'en soucie très peu. Et c'est en 1609 qu'il va y avoir un grand tournant dans la vie de Galilée, dans l'histoire des sciences et dans l'histoire de l'astronomie. Cette année-là, il présente au Doge de Venise, qui est son patron, un modèle de télescope qui s'inspire des lunettes d'approche mises au point aux Pays-Bas. Le Doge de Venise est extrêmement intéressé, lui, pour un point de vue stratégique, puisqu'il est en concurrence avec les Hollandais pour le contrôle des routes commerciales. Et donc, un télescope contre les lunettes d'approche, très pratique. Et tellement content, il nomme Galilée professeur à vie à Padoue. Donc Galilée, beaucoup plus libre de ses mouvements, se lance dans d'autres recherches et fabrique un autre télescope. Et alors que les marins du Doge orientent leur télescope vers les immensités des océans, Galilée le tourne vers celle de l'espace.
En fait, c'est pas un télescope, c'est une lunette en fait.
C'est un système de télescope, non pas...
Avec miroir. Ouais,
réfracteur.
Et à l'époque, il n'y avait pas de différence quand on est le niveau nominal.
Mais je ne sais même pas. Si, parce qu'on parlait de lunettes, d'ailleurs, à l'époque. Ouais. Les Anglais parlaient de télescope, comme toujours aujourd'hui. Mais en plus, cette lunette, elle n'avait pas une... Comment dire, l'oculaire n'était pas une lentille convergente, mais divergente. C'était une jumelle de théâtre. Enfin, une demi-jumelle de théâtre, en gros.
C'était une lunette d'approche.
Voilà.
Qui était tournée vers le ciel.
Donc, avec son instrument, il ne fait pas de mauvais jeu de mots, Daniel, il observe la Lune, le Soleil, Jupiter, la Voie lactée, et il fait des découvertes fondamentales. Il découvre que la Lune est parsemée de cratères, que Jupiter possède à cette époque pour lui 4 satellites.
Les fameux satellites galiléens.
Que la Voie lactée, ce n'est pas une bande uniforme, mais des milliers d'étoiles. Et que le Soleil n'est pas un disque pur et tout blanc, mais qu'il possède des taches. Galilée publie ses résultats en mars 1610 dans un ouvrage, Le Messager Céleste.
Donc le ciel n'est pas parfait. C'est l'important.
Il n'est plus parfait.
Et que surtout, on y trouve sur la Lune des montagnes, comme sur Terre, qu'il y a les phases de Vénus. Surtout, autour de Jupiter, il y a d'autres lunes.
Mais les phases de Vénus, ce ne sera plus tard, Daniel.
Oui.
Donc, pour avoir publié Le Messager Céleste, il s'attire l'attention des princes de Toscane, les Médicis, les mêmes que ceux qu'on a connus en France avec Catherine et compagnie, qui le nomme mathématicien à la cour de Florence. Et c'est là qu'en décembre 1610, il observe les phases de Vénus, qui contredit complètement le système de Ptolémée. À partir de ce moment-là, les vrais ennuis commencent pour Galilée. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il s'oppose aux deux grands piliers de la science de l'époque. Les théories d'Aristote, qui veulent que les objets célestes soient parfaitement sphériques, donc une lune cratérisée, ça ne peut pas exister. Et les dogmes de l'Église qui disent que le ciel est peuplé d'objets parfaitement purs et immuables. Donc pas de tache solaire et pas de phase de Vénus non plus.
Il faut savoir aussi que maintenant, quand on sait, quand on regarde à travers une lunette, on est sûr de ce qu'on voit. À l'époque, en fait, ils pouvaient croire que c'était un instrument qui déformait la réalité. En fait.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Galilée est taxé d'hérésie.
Voilà.
Ce qui va amener la dénonciation en 1614 par l'Église de tous les partisans de Galilée. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, en 1616, ce sont les écrits de Copernic qui sont mis à l'index et Galilée est prié de ne plus s'en occuper.
Et surtout, je crois qu'ils lui ont demandé, comme il était payé par l'Église en fait, ils lui ont demandé gentiment de professer ses idées un peu comme des hypothèses et peut-être de ne pas les professer, ça serait encore mieux. Quoi.
Ça n'a pas vraiment été fait de manière très gentille puisqu'ils sont allés voir les princes de Médicis en dehors de la présence de Galilée qui leur ont dit « Votre professeur est un hérétique ». Donc bon, ça a été clair.
Donc c'était pas très gentil en fait.
Voilà.
Peut-être qu'après la formation, t'es plus gentil après, peut-être. Au départ.
Je sais pas quel effet ça me ferait. Si on disait que je suis un hérétique, je serais peut-être fier. Ouais.
Bah, à l'époque, il pouvait être fier à Galilée, mais
à l'époque, oui, ça coûtait la place.
Mais malgré tout, Galilée, c'est une forte tête. et après avoir laissé passer quelques années, il décide de rédiger en 1624 son dialogue sur les marées, où il met en opposition la théorie de Ptolémée et celle de Copernic.
Et où il fait passer ses détracteurs quand même pour des imbéciles, ce qui n'a pas tellement plu.
Il appelle l'adepte d'Aristote, et donc de Ptolémée, il l'appelle Simplicio. Donc bon.
On a tout compris.
Il prête des propos qui sont les propos du pape, ça passe très mal. Sa publication est malgré tout autorisée par l'Église en 1630, sous un autre titre, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Et il est publié donc en 1632. Mais bon, ça devait être, comme l'a souligné Christian, sans doute un fonctionnaire qui n'a pas lu le livre et qui a donné autorisation, parce que l'Inquisition, elle, lit le livre. Elle n'est pas contente du tout. Et il poursuit Galilée pour hérésie. Ouais. Il le force à abjurer ses thèses dans la même année. Et en 1633, il est condamné à la prison à vie, où il meurt en 1642.
Le pauvre.
Le pauvre. Paradoxe du temps, la même année, en Angleterre, naît Isaac Newton.
Ah, ça, c'est beau.
N'est-ce pas?
C'est beau, c'est triste à la fois, quand même. Hein.
Comme si la science arrivait comme un... ou la nature arrivait à remettre un peu les choses.
Ah ben, la science, c'est comme la nature et la vérité. Elle finit toujours par avoir raison. Hein.
Tout ça pour dire que Galilée aura marqué son temps en mettant en cause les dogmes liés à la théorie pure, au moyen de l'observation, en considérant que aucune théorie n'est valide tant qu'elle n'a pas été confirmée par observation, ce qui est encore valable aujourd'hui. Mais il a été parmi les premiers à l'affirmer.
Oui, enfin, je te laisserai ta conclusion justement pour ne pas la polluer par mes propos tout de suite, mais ça signe véritablement l'acte de naissance de la physique, de la science moderne.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, la période moderne en physique commence avec Galilée.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très très malvenu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu quand même attendre 1992, donc 360 ans après sa condamnation, pour que Galilée soit réhabilité et qu'on considère que ses travaux avaient quand même un sens et n'étaient pas condamnables.
Il était réhabilité par le pape Jean-Paul II, qui a fait quand même quelque chose de bien.
Oui, en fait, c'est bon, moi je sais qu'il y a eu récemment une étude, enfin une polémique de la part de l'Église, plutôt cette histoire autour du procès de Galilée, c'est pas vraiment ça tout à fait, c'est que l'Église, en fait, elle a très vite admis les thèses de Galilée par la suite, puisqu'elle avait un observatoire au Vatican, etc. Mais c'est simplement, elle s'est excusée d'avoir enquiquiné Galilée. Enfin, ça va plus loin, mais c'est pas qu'elle a accepté définitivement ses thèses, elle les a acceptées avant.
Mais elle n'avait pas
réhabilité. Oui. Voilà.
Elle l'avait accepté d'une drôle de manière, puisqu'elle considérait que la théorie de Copernic, c'était un paradoxe assez énorme, pouvait être valable en tant qu'objet, en tant qu'outil de calcul. C'est-à-dire que pour calculer les choses, on pouvait dire que la Terre tournait autour du Soleil. Mais en réalité, elle devait rester immobile physiquement.
Ouais, puis en plus, ça dépendait.
Il fallait concilier les deux. Et si on ne conciliait pas les deux, ce que n'a pas fait Galilée dans son ouvrage, on était condamnable.
Oui, mais ça, c'est tous les jours. Que tu as des modèles qui marchent très bien en science et tout le monde sait qu'ils sont faux. Par exemple, le système de Ptolémée qu'on critique beaucoup, notre ami Louis Campion, historien des sciences, nous avait bien dit que pendant très longtemps, les marins ont continué à l'utiliser, tout simplement parce que c'était encore le plus fiable. Parce que la théorie de Copernic, c'était une belle théorie, mais ça servait pas beaucoup à la marine, c'était pas précis, hein, c'était un modèle comme ça.
C'est un nouveau modèle, mais c'était pas assez précis pour
faire calculer. Voilà, c'était pas un outil de navigation. Ils savaient que c'était faux, mais ça marchait. C'est un peu l'attitude de beaucoup de scientifiques par rapport au modèle, même maintenant.
C'est vrai que le seul grand tort de Galilée à son époque aura été de croire à la réalité physique de son modèle, c'est-à-dire considérer que réellement, la Terre tournait bien autour du Soleil. Ouais. Il avait raison, mais à l'époque, il ne fallait pas le dire.
C'est plutôt ça qui était contestable dans sa position.
Ouais. Merci beaucoup Fabrice. Maintenant, Véronique Dubois va nous expliquer ce que fait la SAN à la fête de la science.
Oui, donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la fête de la science. On sait aujourd'hui que la science et les technologies sont devenues un objet, je dirais, d'intérêt et de préoccupation important et permanent. Car les incidences des découvertes, des inventions et des innovations apparaissent de plus en plus rapidement, je dirais, dans la vie professionnelle et économique, dans la société, je dirais, plus largement. Et donc, la fête de la science, c'est l'occasion, pendant quelques jours, d'amener les chercheurs au contact des élèves, d'ouvrir les laboratoires au grand public et de réunir les universités, les grandes écoles, les associations scientifiques, donc comme nous, et les entreprises.
Alors, je peux rajouter un tout petit mot, Véronique. C'est initialement, il faut rappeler que c'était Jacques Lang qui avait eu cette idée de fête de la science, avec l'idée sous-jacente que la science était souvent perçue de manière très scolaire, il voulait la rendre plus populaire. C'est-à-dire aussi amener les gens qui avaient...
C'est d'ailleurs science en fête.
Oui, ça s'appelle science en fête, c'est-à-dire que la science est une fête, c'est pas ardu, c'est pas triste, et on va le montrer. Bon, c'est un peu ça l'idée. Alors effectivement, ça va tout à fait naturellement avec l'idée qu'il faut mieux montrer ce que fait la recherche et les universités. Il y a alors récemment une demande du ministre, effectivement, de favoriser la rencontre entre les élèves et les chercheurs, mais qui est simplement une partie, une composante de cette grande manifestation qui s'appelle d'ailleurs maintenant de nouveau, je crois, Science en Fête.
Non, Fête de la Science.
Fête de la Science.
Ça s'est appelé Science en Fête. Voilà, ouais. Ensuite, ça s'est appelé Semaine de la Science. Et maintenant, ça s'appelle Fête de la Science.
Ouais. Ça change comme les ministres.
Voilà, c'est quand même la 9e édition, je dirais, et on est déjà rendu à notre 3e nom. Donc
mais ça, c'est comme chez les animaux hein, qui marquent leur territoire. Les chats, c'est, les chiens, c'est par un pipi. Les chats, c'est en grattant le bas des arbres. Les ministres, c'est en changeant le nom des choses instituées. Mais bon,
c'est pas grave, il faut bien qu'ils travaillent, les ministres.
Il faut qu'ils aient lu le Conrad de Lorenz, quand même, pour ne plus commettre ce genre de choses.
Voilà, donc je dirais le ministère de la Recherche, de l'Éducation nationale et puis donc la région organisent donc cette fête de la science, donc cette année qui est donc la 9e édition. Donc la semaine du 16 au 22, donc cette semaine, il y a, je dirais, plusieurs manifestations. Il y a des conférences, il y a des barres des sciences, il y a des expositions, des portes ouvertes au niveau université, au niveau entreprise. Il y a surtout le village des sciences. Mmh. Donc je vais tout particulièrement parler du village des sciences.
Ce qui nous intéresse, nous.
Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ils ont voulu ce village des sciences comme un lieu de rencontre, de forum animé, ouvert aux petits et aux grands, où ils regroupent dans un même endroit pendant donc 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, du 19 au 21, au centre Beaulieu, dans la galerie Carrefour.
Donc, cette semaine.
Cette semaine, tout à fait. Donc, jeudi, vendredi et samedi. Notez bien les dates. Et donc, ils vont réunir dans cette galerie, dans ce village des sciences.
Il faut dire la galerie commerciale Beaulieu, parce qu'il y a 90 commerçants. Sinon, oui. Galerie Carrefour, et les 89 autres vont être jaloux.
Voilà. Donc, et là, il va donc y avoir université, entreprise, institution culturelle et association. Donc, nous serons présents.
Dans une des plus importantes.
Voilà, nous. D'ailleurs, pour nous trouver, c'est facile. Vous prenez la place centrale de la galerie et on est juste sur un côté. À repartir, je dirais...
On est en face à l'entrée principale, voilà, de Carrefour, pour ne pas le nommer.
De Carrefour, pour ne pas le nommer. Donc, où là, donc, ce qu'ils veulent, c'est différents stands, je dirais, ludiques et interactifs. Donc nous, on rentre un petit peu dans cette optique.
Alors, j'ai un petit mot aussi, d'une part, sur les entreprises, parce qu'on les associe à cette fête de la science, parce qu'on oublie souvent hein, ce monde, on pense tous que c'est un monde des affaires, un monde commercial, mais c'est vraiment la vie de notre société, c'est l'application des sciences. Les sciences, ça a apporté le confort, ça a apporté beaucoup de choses, les entreprises les mettent en œuvre, et c'est important que les gens comprennent ce que font les entreprises, alors ils font beaucoup d'efforts hein, pour ça. Ensuite, les associations, c'est pas seulement les gens qui se réunissent autour d'une passion commune et qui mélangent leurs intérêts individuels un petit peu, c'est pas ça, c'est que elles sont passionnées, les associations, elles ont envie de faire connaître ce qu'elles font et surtout elles sont de formidables vecteurs d'interface entre la science, je dirais, instituée, scolaire et autres, et un public. Et souvent dans nos associations, comme la Société d'astronomie, on a des gens de tout niveau scolaire. Donc on a été amenés à comprendre des choses compliquées et on a envie de les retransmettre.
Ce qu'on essaye tous les lundis, semaine paire, on n'a plus ça.
Exactement, mon cher Thierry.
Puis je dirais, l'avantage aussi, c'est qu'avec les associations, on tombe sur des passionnés, bénévoles,
oui,
qui ont justement un amour et un plaisir de faire partager cette passion. Et qui du coup savent employer les mots, les gestes et je dirais les mains s'il faut, pour faire passer cette passion et du coup transmettre, je dirais, un petit peu tout leur savoir.
C'est vrai que c'est pas évident non plus pour des chercheurs ou des entreprises d'être pédagogues.
C'est pas leur métier, mais je crois que quelquefois, paradoxalement, ils le font quelquefois mieux que les gens de métier, non pas que les gens de métier, les professeurs et autres font mal leur travail, mais c'est un autre type de travail. On n'a pas affaire à un public calibré. On a affaire à un tout public, un public qui passe. D'ailleurs, si on est à la galerie marchande, c'est parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui passent. Et on essaie de les capter ou de les captiver encore mieux.
Hein. Si on peut.
Ouais.
Et puis je dirais que ça fait même souvent même moins peur, je dirais, au public qui sera juste là de passage et qui va dire « Oulala, bon, moi ça va, c'est des bénévoles, c'est des passionnés, c'est pas du tout des professionnels dans le domaine qui vont parler de X et de Y et qui vont rien comprendre. »
Voilà, et qui vont me juger, et qui vont me regarder avec condescendance, non.
Voilà.
Alors donc, présente donc, un peu la SAN quand même là-bas.
Voilà, bah, je vais vous rappeler quand même que c'est l'année des mathématiques. L'année 2000, c'est l'année des mathématiques. Donc, on a essayé d'orienter un petit peu, je dirais, notre exposition et nos animations en ce sens. Donc, l'année dernière, c'était l'année de la chimie. Et là, on avait fait une exposition où on avait parlé plus de l'origine du système solaire.
Oui, puis de la chimie de l'univers, dans les
nébuleuses, avec un peu la spectro, etc.
Oui. Voilà, on y avait même ajouté, je dirais, les magnifiques panneaux de l'éclipse du 11 août qu'on avait eu, je dirais, qu'on avait été voir à Saint-Brieuc.
Sur le gâteau.
Voilà. Et puis, il y a 2 ans, on l'avait fait, mais là, ils n'avaient pas encore sorti l'année de la chimie, l'année des maths, etc. Donc, c'était resté dans un domaine un peu plus large. Et là, on avait fait une exposition et des animations en collaboration avec le laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes et d'IFREMER.
Voilà.
Et là, ça avait été une collaboration, je dirais, entre donc, associations professionnelles, chercheurs, sur un thème où on avait parlé justement tout ce qui était origine de la vie.
Et tout ce qui était forme de vie, et pour parler aussi de la forme de vie sur le satellite de Jupiter, hein, Europe, hein. À l'intérieur duquel il y a des océans, et peut-être que dedans il y a une chimiosynthèse, comme dans le fond des océans terrestres.
Voilà, donc tous les ans, je dirais, on change un petit peu le thème d'orientation de l'exposition. Et cette année, on a essayé de s'orienter un petit peu dans l'année des mathématiques. On a donc axé notre exposition en 2 sens. Une partie sur, justement, les mathématiques, la complicité entre les mathématiques et l'astronomie.
Une
folle complicité, c'est le titre, je dirais, de l'exposition. Où là on va essayer un petit peu d'illustrer comment les mathématiques ont servi à l'astronomie et inversement.
Ce qu'a parlé d'ailleurs un petit peu Olivier sur les mesures angulaires.
Voilà, tout à fait, avec les degrés, justement, ça y compris. On a une autre partie qui est là aussi, je dirais, régie un peu par des lois mathématiques, c'est l'optique. C'est donc tout ce qui est observation et instrumentation. Donc les lunettes, les télescopes, comment ça marche, qui parlait des spectres, on a aussi, je dirais, les observations dans les différentes longueurs d'onde, etc. Donc on va pouvoir expliquer justement un petit peu tout ça à travers de panneaux, mais aussi à travers d'objets et d'animations qu'on aura sur le stand. Sur le stand, en plus des panneaux, on va avoir des instruments, on aura une lunette, 2 télescopes avec des montures différentes, pour pouvoir expliquer aux gens que ce qu'ils voient sur les panneaux, ben, c'est vraiment les objets qu'on a devant eux, je dirais, qui servent à observer. Donc, on va pouvoir illustrer un peu tout ça, leur montrer comment ça marche, comment ça bouge.
La mesure du temps aussi.
Voilà, la mesure du temps.
Par des images choc.
Voilà. Et on a également ce qu'on appelle un télescope. Donc là, Daniel peut peut-être vous en parler un peu mieux que moi, puisqu'il connaît un petit peu mieux que moi.
Oui, alors, télescope, bien sûr, c'est un nom, enfin, je dirais que c'est un nom commercial. C'est un astronome amateur hein, qui avait conçu. Il était instituteur à l'époque. Alors, pour expliquer le mouvement des planètes et des corps célestes et du soleil, pourquoi le soleil est plus haut en été qu'en hiver, etc. Alors, à force de faire des dessins au tableau, il en a eu assez, et puis il a conçu un petit appareil qui
autorisé,
montre,
en fait.
Oui, qui visualise les choses très très facilement et qui montre, et alors on se rend bien compte, hein, pourquoi que les pleines lunes d'été sont basses et celles d'hiver sont hautes, par exemple. Et puis plein d'autres choses qu'on peut. Donc on va vous montrer, vous pourrez poser d'ailleurs des questions. Hein,
voilà. Donc il y aura, je dirais, en permanence, minimum 2 animateurs sur stand. Donc n'hésitez pas, si vous passez dans le coin, à venir nous voir, à poser des questions si certains panneaux vous, je dirais, vous titille ou autre.
Oui, parce que, oui, je vais en parler un petit peu de ces panneaux, mais rapidement, parce que l'année des mathématiques, alors, tu l'as très bien déjà esquissé. Déjà, les mathématiques, je vais dire une chose choquante, mais qui n'est pas du tout pour les diminuer, ce n'est pas une science, les mathématiques, parce qu'il n'y a pas d'objet. C'est un outil. Ce n'est pas le minimiser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'histoire des sciences, qu'est-ce qu'on constate? D'une part, les mathématiques, en elles-mêmes ont d'abord eu la primeur, c'est-à-dire qu'on essayait de faire coller le monde aux mathématiques. Ça, c'était la première époque, l'Antiquité, puis même jusqu'à Descartes. Après, en fait, on s'est rendu compte que le monde, il était autre que cet idéal, le modèle mathématique. Et par contre, pour le décrire correctement, il a fallu inventer de nouveaux outils mathématiques. En fait, par exemple, le calcul différentiel et intégral, c'est Leibniz et Newton qui l'ont développé pour pouvoir décrire les mouvements des planètes. Et en fait, donc, l'astronomie, et surtout l'astronomie, on s'est rendu compte que ça a été un formidable aiguillon pour le développement des mathématiques. Et à l'inverse, aujourd'hui, les mathématiques leur rendent un petit peu ce qu'elles ont emprunté aux autres sciences, puisqu'on voit certains scientifiques mathématiciens qui, par leur façon de penser et de construire les choses, viennent féconder à nouveau les sciences d'objets, enfin les vraies sciences comme l'astronomie et ça. Leur façon de penser qui est issue de cette espèce de rigueur, cet outil qui leur a développé ça. Alors nous, ce qu'on va développer autour de cette idée, on va montrer par exemple des choses très simples. On va montrer par exemple comment les Ératosthènes, les anciens, ont mesuré le tour de la Terre. C'est très simple. Alors c'est surtout une méthode géométrique. Alors c'est aussi
très ingénieux quand même.
C'est ingénieux. Et alors là, ce qui est extraordinaire aussi, c'est comment Galilée, puisque tu parlais de Galilée, Fabrice, comment Galilée a fini par résoudre le mouvement, parce qu'on étudiait beaucoup de mouvements, parce qu'il fallait prouver que les objets pouvaient être en mouvement, alors que la Terre pouvait parfaitement se balader, enfin. Et l'étude du mouvement, il a fallu passer par de nouvelles méthodes mathématiques, et donc on va voir Galilée développer une méthode géométrique pour établir ce qu'on appelle aujourd'hui l'équation de la chute des corps. Après, on verra Newton, ça c'est sur nos panneaux, on expliquera comment Newton a démontré la deuxième loi de Kepler avec justement avec des triangles, des surfaces de triangles, etc. Donc plein de choses qui sont à la fois, on pourrait dire, simples, mais quand même compliquées. Mais justement, on va voir, les gens pourront se rendre compte que ce qui paraît compliqué, souvent, c'est assez simple.
Faut quand même rappeler,
de toute façon, même justement, si les gens se posent des questions, c'est le moyen, je dirais, d'avancer, d'aller un petit peu plus loin et de absolument nous poser des questions, mais de demander ça, comment ouais ça marche,
savoir,
etc.
En plus que c'est très bien fait, parce que les panneaux, c'est nous qui les concevons.
Ça peut être que bien fait, mais surtout voilà,
c'est fait dans un but d'expliquer, essayer d'expliquer le plus simplement possible.
Voilà, ça ne s'adresse pas, on s'adresse ni aux astronomes, ni aux astronomes amateurs, voilà, ni aux mathématiciens, etc. On s'adresse au public, c'est-à-dire à ce que nous étions nous, même si certains d'entre nous sont chercheurs ou ingénieurs dans d'autres domaines, nous sommes quelquefois très néophytes dans un domaine de l'astronomie. Donc on est passé par là, et je pense que c'est... En plus, ceux qui sont dans les écoles, ils vont se rendre compte que les mathématiques, eh bien, peut-être que c'est tout à fait autre chose que ce qu'ils ont dans la tête comme appréhension, hein, très souvent. Alors, voilà, c'est un moyen. Venez nous voir, parce que, après tout, vous pourrez vous rendre compte que c'est bien.
Voilà, donc on va juste rappeler quand même, je dirais vite fait, les dates. Donc, je rappelle jeudi, vendredi et samedi, 19, 20 et 21 octobre. Donc, Galerie Commerciale Beaulieu, à Nantes. Le jeudi et le vendredi, c'est du 10h, 19h, et le samedi, c'est du 10h, 21h. Donc n'hésitez pas, on sera sur place et on sera très heureux de vous accueillir.
Merci Véronique et Daniel. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver vos animateurs radiophoniques préférés, parce qu'on sera quasiment tous présents.
On signe des autographes.
On signe des autographes. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous donc pour la prochaine émission de radio lundi 30 octobre à partir de 21h pour... la prochaine émission Pulsane sur Alternante. Merci à tous les intervenants de ce soir. Merci à Frédéric Cavagnier et Vincent Genron qui sont derrière le bocal en train de tripoter les boutons, qui s'occupent de la technique. N'oubliez pas le proverbe du jour, à la Saint-Edwige, explorer le ciel vous donne le vertige.